Je vais vous montrer des choses parce que je vais vous traiter un sujet particulier, difficile, que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, je vais vous montrer d'abord deux courtes vidéos, mais on va prendre un extrait d'une minute pour que vous sachiez quand même de quoi on parle, de quoi je parle. Ce n'est pas de la petite bricolette, hein, ce n'est pas du tout de la petite bricolette, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave. Et je peux vous dire que, de nos jours, c'est un mouvement qui a le vent en poupe et les gens assoiffés de surnaturel et de richesse trouvent là un chemin d'accès, du moins théoriquement. Alors, il faut savoir à quelle puissance on a affaire et ce qui est proposé. C'est mon propos de vous présenter cela ce soir. Donc, pour vous montrer un tout petit peu le caractère, je vais vous montrer deux leaders du mouvement. Deux leaders, en regardant, voilà. Celui-ci s'appelle Kenneth Hagin. Vous cherchez sur votre téléphone quand vous voulez. Vous allez voir que de nos jours, on publie des livres pratiquement chaque mois parce que les livres, l'édition à ce niveau-là, rapportent de l'argent, n'est-ce pas? Alors, voilà, monsieur est le promoteur aussi de... un des promoteurs du rire. Alors voilà ce qu'on peut appeler, c'est réel, c'est une vidéo, n'est-ce pas, la présence de l'esprit et autres. Une minute. Un peu plus loin. Voilà, il a mis le feu à l'Assemblée. Voilà le résultat. Ça, c'est l'onction soi-disant divine, n'est-ce pas, hein? Donc, on est d'accord, je n'invente rien. Une. Vous aurez les références si vous voulez voir tout en détail. Alors, j'en ai une autre, voilà. Un autre très connu, Bénin. Au niveau mondial, ce sont des gens voilà, hein, qui roulent, entre guillemets, en avion personnel, etc., sur le compte de l'argent des chrétiens. Donc, Bénin. Hein? Le son. Voilà. Donc, on va essayer de mettre en plein écran. Voilà. Donc, c'est le plus célèbre, hein, au niveau mondial. Oh, généralement, je n'ai pas calculé, c'est toujours pareil, de toute manière. Hein. C'est des trucs, il doit avoir 10 ans, mais à vous de contrôler. Mais enfin, c'est toujours pareil de nos jours. Moi, je suis allé l'écouter, vous aurez des fichiers. Je vous ai mis un fichier, je suis allé écouter Bénin, personnellement. Donc, vous avez mon résumé de 2005 ou 2006, si vous voulez. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et ça, donc, c'est... on va le voir un peu plus loin, cet homme dit « Celui qui dit du mal contre mon onction, je le maudis au nom de Dieu. Hein, » d'accord. Donc, on est à ce niveau-là, donc c'est quand même des choses sérieuses que je vous dis, j'invente pas, vous voyez les gens au sol, etc., etc. Bah, vous pouvez, alors, soit il les touche, soit même, il y a des trucs encore plus spectaculaires, à distance, il peut coucher une centaine de personnes qui tombent en arrière, ce n'est pas du cinéma. Il y a une puissance. Laquelle? C'est une vraie question. Bon, voilà, simplement pour vous montrer de quoi je vais vous parler. Et maintenant, j'en viens simplement à ma conférence. Donc, on va commencer ici, comme si je ne vous avais rien dit et rien montré. Je remets mon compteur à zéro. Là, avez-vous, moi, j'ai perdu ma souris. Ah, qu'est-ce qui est passé? Ah, ça, la voilà. La voilà. Là, 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 là. Donc, le thème de cette soirée, c'est l'évangile de la prospérité que j'ai sous-titré le grand business. J'avais pensé à d'autres titres, le cinquième évangile, point d'interrogation. L'évangile selon Mammon ou l'arnaque. Donc, découvrons un peu les choses, mais avant, j'aimerais que nous réfléchissions sur une chose très simple. Les chiffres que j'ai mis ici ne sont pas obligatoirement justes, je veux vous parler au niveau du principe. Si on regarde la loterie nationale, nous voyons qu'il y a des millions de participants, qu'il y a un seul gagnant, qu'il y a des millions de perdants, donc en l'occurrence, et qu'on peut partir de zéro, si j'avais les possibilités, ben vous montez un truc comme ça, vous êtes gagnant à tous les coups. Supposons qu'un billet coûte 10 euros, un million de personnes, ça fait 10 millions d'euros d'un seul coup. Le gros lot, on propose 1 million pour le gagnant. Petit lot, on prend 1 million, on le coupe en morceaux pour que les gens soient un peu encouragés. Et vous donnez, je crois que c'est soumis à l'impôt, 1 million aux impôts. Vous faites la soustraction, 10 millions moins 3 millions égale 7 millions gagnés dans vos poches. D'accord? Donc c'est assez simple, le système. Regardons maintenant l'évangile de la prospérité. Des millions de participants, parce que ces gens utilisent la télévision. Un seul gagnant, celui qui fait la pub. Tous les autres, des millions de perdants. Mais j'ai dit, la différence, c'est qu'on ne part pas de zéro. Il faut avoir une chaîne de télévision pour se lancer, sinon ça ne marche pas, jamais. Alors, une offrande, on sollicite, mettons, une offrande de 10 euros, par principe, il gagne 10 millions d'euros. Pas de gros lot, pas de restitution. Petit lot, 1 million, on va dire, bonnes œuvres, 1 million, pour faire bien, pour la publicité, ils s'occupent des gens au Bangladesh. D'accord ? Impôts, exonérés d'impôts. 10 millions moins 1 million égale 9 millions. Autrement dit, à chaque opération, ils gagnent 9 millions, d'accord? Là, la fréquence de la loterie nationale, j'ai mis mensuelle, peu importe, c'est un principe. Et là, j'ai mis fréquence répétitive, parce que en plus, dans les églises, on va le voir, qui sont soumises à la dîme, c'est toutes les semaines, d'accord? Donc, le gain annuel, j'ai mis 84 millions pour la loterie nationale, j'ai mis 180 millions, c'est peut-être le double ou le triple, peu importe, pour l'évangile de la prospérité. Alors, si vous perdez la loterie nationale, vous n'avez pas eu de chance, persévérez, jouez encore, et on voit que les gens se prennent, ils vont quand même en réessayer pour gagner, d'accord? Et si vous avez une réclamation, eh bien, vous allez à la Française des Jeux. Dans l'évangile de la prospérité, c'est un peu différent. Le gain est plus important, vous n'avez pas gagné, c'est votre faute. Vous manquez de foi. Si vous voulez réellement gagner, eh bien donnez, donnez plus. Le peu qui vous reste, vous avez donné tout ce qu'il y avait dans une poche, donnez tout ce qu'il y avait dans l'autre. C'est pour ça que vous n'avez pas débloqué le système. Et si ça ne va pas, eh bien, vous réclamez à Dieu, parce que Dieu a fait la promesse que si on lui donnait, c'est sous-entendu si vous nous donnez, il vous donnerait au centuple. Donc, vous voyez, un principe assez simpliste. La loterie nationale est, à mon avis, une arnaque laïque pour ponctionner les pauvres en douceur avec leur consentement. L'évangile de la prospérité est une arnaque chrétienne pour ponctionner les pauvres en douceur avec leur consentement. Donc, c'est pas mal monté sur le plan intellectuel. Et à vrai dire, bon, si je n'étais pas chrétien, je me lancerais peut-être dans l'évangile de la prospérité. Ça rapporte beaucoup. Et on ne prend pas de risque. Donc, généralité, pour bien comprendre le contexte, il faut savoir que dans les milieux évangéliques, il y a trois niveaux. Le niveau que l'on appelle évangélique, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ nous donnent le salut. Il y a bien sûr des petits malins qui ont trouvé, mais attends, vous avez laissé la moitié, regardez. Vous avez aussi dans la même œuvre la guérison du corps. Waouh, super! C'est le niveau, on va dire, en gros, pentecôtiste. Et puis il dit, mais attends, les pentecôtistes, ils sont quand même nuls. Encore un peu, vous n'avez pas vu, c'est qu'en même temps, dans le même lot, vous avez la prospérité financière. Donc, profitez de l'ensemble. Dieu a tout donné, vous n'avez pas tout pris. C'est votre faute. Enfin, vous voulez y entrer ou pas? Tout le monde comprendra rapidement que 1 plus 2 plus 3, c'est la combinaison gagnante. Et c'est l'évangile de la prospérité. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège, et de nos jours, dans les librairies évangéliques, on sollicite les gens pour qu'ils mettent ces livres, qu'on continue à enrichir ces gens-là, à l'entrée. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui se vendent le mieux. Et il y a un réel combat, et il y en a peut-être... Non, je ne vois pas, mais peu importe. Il y a des gens ici même qui ont dû gentiment démissionner de ces milieux. Bah, de ce milieu, du moins de la responsabilité dans les librairies. C'est un mouvement qui a donc le vent en poupe, sans aucun doute. Voilà le genre de titre, des secrets divins pour vivre, heureux, en bonne santé, guéri et richement qu'ici. Donc vous voyez des dollars, des pièces, vous voyez des avions, parce que chacun, bien évidemment, a non seulement un, mais deux, trois ou quatre avions personnels, pour aller directement à l'autre bout du monde sans escale. Vous comprenez? C'est normal, quand même, parce que c'est fatigant de faire une escale. Donc, le Seigneur ou leur Seigneur leur donne des visions pour qu'ils aient un jet, encore avec la marque, si vous voulez, et de tant de millions. Le Seigneur m'a montré ceci. D'accord? Bien sûr, il y a toujours des versets bibliques, et c'est ce qui rend cet évangile dangereux, parce que c'est toujours appuyé sur la Bible. Et nous avons une preuve, si nous en avons besoin, que la Bible, on peut la manipuler comme on veut, à condition qu'on la connaisse assez, qu'on sorte les versets du contexte pour qu'ils servent à finalement nos convoitises. Et ici, on va dire, ben oui, Dieu nous donne toutes choses richement pour en jouir. On aurait bien tort de s'en priver, regardez ce que la Bible affirme. C'est un raccourci, parce qu'on élimine tous les versets qui disent l'inverse. Alors voilà ces gens-là, vous avez ici Bénigne, qu'on a aperçu tout à l'heure, ici Joyce Meyer, et qui donne des bons enseignements. Attention, hein, c'est ça le problème. Hein. Ils donnent des bons enseignements, mais il faut aller les voir dans les derniers, dans leur retranchement, en disant, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors là, ils sont obligés de lâcher le morceau, ils sont à fond dans l'évangile de la prospérité, et vous avez quelques-unes de leurs maisons, dont celle-ci coûte quand même 10 millions de dollars, d'accord? Voilà. Les avions. Pour essayer de rentrer dans ces choses, il faut comprendre la logique de la troisième vague. Alors voilà comment ça se passe. Il y a une guerre spirituelle entre Dieu et les puissances positives, on va dire, et Satan et ses démons, puissances négatives. Et les démons possèdent des pays, des régions, etc. Et nous, chrétiens, nous devons libérer ces régions, ces pays, afin que le christianisme se répande à la gloire de Dieu. C'est la logique. Donc, on va aider Dieu dans cette guerre, on va participer à la victoire et donner à Christ le royaume clé en main. Ça touche des questions que l'on peut appeler eschatologiques, donc d'interprétation concernant les temps de la fin. Pour eux, ils n'attendent pas le Seigneur qui va venir nous emmener dans la maison du Père, mais ils pensent qu'ils doivent faire leurs efforts, gagner le monde entier pour Jésus-Christ, et quand tout est en place, il dit « tu peux venir, tout est prêt ». Prendre le pouvoir spirituel et politique s'appelle la doctrine dominionnisme. Donc l'évangile, pour arriver à cela, doit être puissant. Il doit se manifester obligatoirement par des signes et des prodiges. Et vous en avez vu dans la vidéo qui précède, d'accord? Donc, rentrons un peu plus dans ce qu'est le dominionnisme. Est-ce qu'il y a un verset biblique? Mais bien sûr, regardez. Dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Dieu a dit ça à Adam et à Ève. Entre-temps, il y a eu quelques ennuis de parcours, mais on n'en parle pas. Donc cette domination, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu la confie aux chrétiens de nos jours. Il faut qu'on domine sur tout. Les chrétiens doivent dominer sur tous, sur tout. L'objectif étant que la nation soit gouvernée par des chrétiens ou qu'elle soit gouvernée par une compréhension chrétienne de la loi biblique. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Les conséquences. Ces chrétiens vont rechercher la santé, guérisons et miracles, rechercher le pouvoir par une implication politique. Et entre parenthèses, sans faire de politique, si Trump est au pouvoir, c'est grâce à eux, hein. Rechercher la puissance, l'onction, et rechercher l'argent, parce que l'argent est à Dieu, et un chrétien pauvre est un pauvre chrétien. Paul dira quand même aux Corinthiens, qui avaient beaucoup moins de possessions qu'eux, il disait, mais vous, déjà vous êtes riches, vous régnez, d'accord, mais vous avez régné sans nous, parce que le vrai christianisme, il n'est pas là. Je vais vous montrer maintenant quelques techniques et manipulations du mouvement. Tout d'abord, l'instrument de la propagande, c'est la télévision. Un d'entre eux, appelé Jimmy Swaggart, qui a fait le scandale il y a bien des années, parce qu'il avait une double vie, eh bien, a reçu la révélation de Dieu qu'il fallait avoir des chaînes de télévision. Donc, ils ont eu des chaînes de télévision. Voilà ce qu'en dit Wikipédia. Ils sont propriétaires de leur propre chaîne, jouissant d'une visibilité médiatique et de l'influence politique qui est associée. On va le voir un peu plus tard, mais je vous le dis maintenant. Il y en a un qui a eu l'idée, ou la vision, ou une parole de qui il devait avoir un jet de 54 millions. Pas de problème. On dit à la télévision, à 54 millions d'auditeurs, est-ce que vous ne donneriez pas un euro pour l'œuvre de Dieu, pour que l'évangile aille jusqu'au bout du monde? Vous connaissez la parole de Dieu. Jésus-Christ, avant de partir, a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Pour aller jusqu'au bout de la terre, il faut un avion. C'est celui que le Seigneur m'a montré. Un euro chacun, 54 millions qui écoutent. Donnant chacun un euro, vous avez, en fin de conférence, 54 millions de dollars. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, c'est un peu ceci. Et les articles disent ceci. Palace, Rolls-Royce, garde du corps, jet privé. Nombre de télévangélistes américains mènent un train de vie royal. Ils ne paient pas d'impôts, car les organisations religieuses en sont dispensées. La loi ne les oblige pas non plus à ouvrir leur livre de compte. Certains perçoivent des subventions accordées par l'administration, en sus, des sommes impressionnantes, estimées à 2,5 milliards de dollars par an, que leur versent leurs fervents donateurs. Voilà, on est dans le business, hein. Donc on va regarder les différents éléments de l'évangile de la prospérité. La première, c'est la puissance. Il faut de la puissance. Il y a quatre moyens d'accès qui sont la glossolalie, le parler en langue, la parole d'autorité, la pensée positive et la prise d'autorité. Le premier, la clé de la porte d'entrée, le parler en langue. Je l'ai rappelé, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins, etc. Comme quelqu'un l'a dit, la glossolalie, le fait de parler en langue incompréhensible, est le principal marqueur de la pratique pentecôt-charismatique. Le baptême du Saint-Esprit, selon ces personnes, n'est réel que si on constate le don de parler en langue. Sans ce signe initial, pas de Saint-Esprit, pas de puissance, pas de miracle, pas de guérison. Et on comprendra l'insistance qu'il y a, réunion d'attente du Saint-Esprit, réunion de ceci, répète après moi une phrase comme ça, jusqu'à ce que les gens parlent en langue, s'imaginant qu'ils ont le don des langues donné en acte 2 par Dieu, mais oubliant quand même qu'il est dit « ceux qui les écoutaient entendaient dans leur langue les choses magnifiques de Dieu ». Tandis que là, on n'entend rien si ce n'est un charabia. Alors, est-ce que tous doivent parler en langue ? La Bible répond, 1 Corinthiens 14, « Tous parlent-ils en langue ?» Fin du chapitre. La réponse est non. Donc, on laisse tomber. Le deuxième point, c'est la parole d'autorité, la parole de foi. Bien sûr, il est dit en Marc 11, « En vérité, dit Jésus, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, il ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. » Donc, affirmez les choses et vous allez voir, ça marche. Bon, je n'en ai pas encore vu qui disait une montagne se déplacer et que ça marche. Mais enfin, ça fait. Hein. On a trouvé un verset, c'est bien. Donc, il faut proclamer pour posséder. Rien ne peut rivaliser avec la puissance de vos paroles. Vous êtes Dieu sur la terre en petit. Vous affirmez, la chose se réalise. Comme au début, Dieu, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ben, c'est aussi simple que ça. Et on va voir pourquoi. Eh bien, c'est que ces gens pensent être des petits dieux. Hein, on va le voir plus tard. Et vos, encore une citation, « Vos paroles amènent les anges à agir en votre faveur et à faire advenir quoi que vous dites. Les anges attendent vos paroles. » Soyez réalistes, ils n'agiront pas sans vos paroles. Donc affirmez, faites intervenir. Ils sont là, les anges, au garde à vous, attendant le moment où vous allez leur donner des ordres. Alors voilà. Donc parole d'autorité, la parole de foi. Et vous avez des livres comme ça, la puissance de vos paroles. Hein. La troisième chose, c'est la pensée positive. Ça serait trop long d'expliquer. Le positivisme est une doctrine philosophique qui remonte au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Là aussi, tout n'est pas faux. Il vaut mieux être positif que négatif tout le temps. Bon, eh bien d'accord, c'est sûr. Si quelqu'un voit, comme on dit, une bouteille toujours à moitié pleine et l'autre à moitié vide, celui qui la voit à moitié pleine sera mieux globalement dans sa santé, dans sa réaction. C'est de la psychologie, c'est logique. Et la Bible nous dit que toutes les choses qui sont bonnes, de bonne renommée, s'il y a quelques vertus, quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Donc on est appelé à être occupé des choses positives. Et cela fait du bien, et personne n'est contre, surtout pas moi. Maintenant, ça va plus loin, c'est qu'il y a aussi la technique de la visualisation. Et un monsieur dont on verra tout à l'heure la photo disait ceci, « Vous réclamez à Dieu une voiture. » Vous ne la recevez pas, c'est normal. Hein. « Lui avez-vous précisé la marque, la couleur et la cylindrée ? Faites-en la visualisation dans votre esprit. Ce n'est que quand le Seigneur saura exactement ce que vous voulez qu'il pourra vous le donner. » Ouah ! Le problème, je vais le souligner. Le but, c'est donc de placer l'impossible dans le champ du possible. Pourquoi ? Ah, et comment ? Avec l'imaginaire, avec l'auto-suggestion, méthode Coué, et aussi, si on est chrétien, la prière. Elle ne sert à rien, hein, mais vous la mettez en plus si vous êtes chrétien, d'accord ? Et vous arrivez à un mélange plus ou moins magique, et avec quelquefois la réussite. Et quelqu'un a dit « Yes, we can ». Qui c'est ? Obama. Je ne sais pas si c'est le meilleur chrétien du monde. Hein. Je ne sais pas du tout. Eh bien, il met en place la pensée positive. Oui, nous le pouvons. Et nous savons que quand on est leader, ça va bien mieux que de traîner les pieds. On a bien compris. Si vous dites « Bah, on pourrait peut-être, je ne sais pas si on va arriver, moi je ne crois pas. Bon, personne ne suit. On dit, allez, on y va, on est capable de le faire, on fonce. Bon, opposition. Mais ça n'a rien de spirituel. Hein. Si bien que on trouve ça dans le monde. Vous achetez la visualisation positive pour les nuls, ça n'a aucun rapport avec un quelconque christianisme, mais vous avez trouvé les méthodes. Ou un autre livre, découvrez comment changer de vie par votre seule volonté. Dieu, on n'en a pas besoin, il ne sert à rien, on est bien d'accord. Vous pouvez tout faire vous-même. Donc on est dans le domaine soit de la psychologie, soit des fois de l'occultisme. Pensée positive. Et le quatrième élément, c'est prenez autorité. Prenez autorité sur tous les démons. Le monde est régi par les démons et vous, vous êtes les champions. Vous leur donnez des ordres, jusqu'à ce que je trouve un livre, mais je ne l'ai pas retrouvé, je n'ai pas pensé, qui est intitulé « Satan, je lui donne une claque ». Je regrette, dans Jude, il est dit que même Michel l'archange, lorsque le diable contestait avec lui, n'osa pas prononcer contre le diable un jugement injurieux, mais lui dit « Dieu te censure ». Parce qu'on ne s'amuse pas avec les démons. On ne s'amuse pas avec les démons. Alors, on considère dans leur littérature que les esprits mauvais peuvent agir sur l'esprit des chrétiens mal éclairés. Et on va voir la suite. C'est-à-dire, si vous êtes malade, c'est que vous êtes un pauvre chrétien qui se traînasse et qui est mal éclairé. Si vous êtes dans la dèche et au chômage, eh bien, c'est parce que les démons agissent sur les réalités économiques. Il bloque la bénédiction. Dieu voudrait que vous soyez riche et vous êtes pauvre. Votre rendement, il est nul. Ce n'est pas parce que vous avez mal géré votre entreprise, mais c'est parce que les démons sont à l'œuvre et ils sont à l'œuvre lorsque survient aussi la maladie. Le croyant, fort de l'œuvre de Christ, doit prendre autorité sur ses puissances. Maintenant, ça suffit, je ne veux plus être pauvre, je veux être riche, je ne veux plus être malade. Et puis voilà, et ça sera comme ça et pas autrement parce que moi, je le dis. Très bien. Et le conseil est là. Alors sortez vos armes, vous sortez la Bible, vous sortez la prière, je ne sais pas d'où, vous sortez la foi, je ne sais pas où elle est, mais enfin, vous la sortez, vous liez l'ennemi avec des liens bien serrés et vous allez utiliser la puissance peu commune de Dieu pour le garder lié. Il sera incapable de tenter quoi que ce soit contre vous. Vous imaginez tous les chrétiens du monde qui sont en train de lier Satan. À mon avis, il y aurait moins d'activité satanique si c'était vrai, parce qu'il doit avoir quelques liens hein, autour de lui. Dès aujourd'hui, prenez autorité sur les démons et entrez dans la bénédiction divine. Le deuxième point important après la puissance, c'est la santé. Voilà des citations. Le croyant discernera l'action des démons là où des obstacles s'opposent à la santé. En langage clair. Toute personne malade est plus ou moins liée par Satan. C'est quand même pas peu de choses. Les livres vont à l'infini, soyez guéris, etc. Vous trouverez ça sur Internet, il n'y a pas de problème. Comment ils expliquent la chose? La maladie fait partie de la malédiction de la loi, selon Deutéronome 28. Si tu fais le bien, tu seras béni. Si tu fais le mal, des maladies viendront sur toi, ceci et cela. Vous pouvez le lire, c'est l'enseignement que donne Moïse à la fin du voyage dans le désert. Et voilà donc ce qu'ils interprètent, c'est que cette malédiction qui pesait jadis sur l'homme, eh bien elle est finie parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si vous lisez le contexte de Galates 3,13, vous allez être surpris parce que la malédiction se rattachait à un salut par les œuvres et Abraham fut justifié sur le principe de la foi. Donc, verset sorti du contexte, et avec ça, on dit, mais il n'y a pas de problème. Alors, je lis, « Je crois que la volonté de Dieu n'est pas seulement que vous soyez guéris, il veut aussi que vous soyez en bonne santé jusqu'à ce qu'il vous rappelle. Jésus a été rendu malade de toutes nos maladies à la croix, il était cancéreux, il était tout ce que vous voulez, tout comme il a été fait péché pour nous. Le chrétien doit s'approprier de cette réalité par la foi, comme il le fait pour le salut. » La volonté de Dieu pour le croyant n'est que la santé et ou la guérison. Ah, vous avez des tas de versets avec. Et on doit affirmer, dès aujourd'hui, nous devons dire, la guérison nous appartient, la guérison m'appartient. Alors, pour arriver à cela, il propose des petites recettes, je vous en ai mis deux. Vous achetez le livre, le guide essentiel pour guérir. Vous achetez ça et vous êtes guéri à la fin, soi-disant. Vous avez ici la photo d'un homme qui est intéressant quand même, qui s'appelle Sourdril, Jérémy Sourdril, qui est à la tête donc, d'une émission de télé, EMCI, qui est quand même globalement intéressante, où il y a de très bonnes choses qui sont dites dedans. Néanmoins, je me suis donné la peine d'écouter toutes les vidéos et on trouve les mêmes problèmes, il est à fond, pour l'évangile de la prospérité et pour la guérison. Or, par exemple, il a un livre ou une émission qui est « Soyez guéris aujourd'hui, on vous propose prière contre 150 maladies ». Voilà, si vous avez la 151e, ce n'est pas pour vous, mais si c'est dans les 150, vous avez gagné. Et il appelle ça des prières inspirées. Or, ça fait mal parce qu'il dit aussi de très bonnes choses. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Un autre, le patron de Last Reformation, la guérison fait partie intégrante de ce que Dieu veut pour tout le monde. Et nous pouvons tous la pratiquer. On peut déjà se poser la question, parce que je croyais qu'on pouvait tous la demander, mais non, pas même. On pratique la guérison. Pas mal, hein ? Pas mal. Bon, pas mal, il faut réfléchir quand même sur ces choses. Alors, une autre technique simple, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y en ait des fois des personnes malades parmi nous, parce que Bénin nous affirme, quand vous prenez la communion, le repas du Seigneur le dimanche matin, vous mangez Christ. Et c'est cela qui guérit votre corps. Quand vous mangez Christ, comment pouvez-vous rester faible et malade, hein ? Je vous pose la question, hein ? Vous avez eu des réponses à ça ? Alors que c'est l'évidence. C'est la doctrine, d'accord ? Alors maintenant, je suis un peu curieux, moi, et je regarde. Quelle est l'application que j'ai mise chez les meilleurs ? Je vais vous parler de deux personnes. La première, alors ce sont deux personnes, je le souligne, qui ont condamné l'évangile de la prospérité. C'est le niveau simplement pentecôtiste, deuxième niveau. Clément Lecossec, qui est à la base de la conversion de très nombreux tziganes et qui a mis en place des orphelinats en Inde. Il a fait un très gros travail, j'ai eu l'occasion de correspondre avec lui, c'était un homme globalement sérieux, un enfant de Dieu. Mais néanmoins, lui, comme les autres, a écrit un livre qui s'appelle « La guérison divine ». Et vous avez acheté, il est écrit ceci, vous avez acheté ce livre parce que vous voulez être guéri, vous n'allez pas être déçu. Et à la page 50 et quelques, il dit « Faites maintenant que vous avez lu ce livre, ce que vous étiez incapable de faire avant, vous étiez paralysé, levez-vous et marchez ». Vous avez des prothèses auditives, jetez-les et entendez, faites tomber quelque chose et entendez. Vous avez des lunettes, vous les jetez, vous voyez au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a porté sur la croix non seulement nos péchés, mais encore nos maladies. Il n'y en a plus. Réclamez votre guérison. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est que moi, j'ai connu le Cossec et qu'il avait des lunettes au moment où il écrivait, il les a gardées jusqu'à sa mort. Alors, ça, moi, ça me gêne un tout petit peu. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me gêne un peu. Un exemple encore peut-être plus fort, c'est celui, je ne sais pas si vous... Ah ben, il y a le nom dessous, de David Wilkerson. Et j'ai mis à côté, avec tout le respect pour l'homme de foi qui a témoigné de Jésus-Christ au cœur même des gangs de New York et qui a été l'instrument de la conversion du terrible Nicky Cruz, je fais allusion à la croix et le poignard, que vous pouvez lire à droite ou à gauche, ou sur Internet, vous pouvez avoir un film, une adaptation. On est surpris d'entendre son propre témoignage, alors qu'âgé de 77 ans, en 2007, il est mort maintenant, il présente sa femme Gwen et précise qu'elle a eu dans sa vie, c'est une vidéo que vous pouvez trouver, 26 opérations, dont 5 d'un cancer très grave. Excusez-moi, je ne le fais pas exprès, mais moi, je réfléchis un peu de temps en temps et je me dis, si il a eu 26 opérations, si elle a eu 26 opérations, dont 5 d'un cancer très grave, c'est qu'elle n'a jamais été guérie. Voilà, oui, c'est ma petite déduction logique. Et pourtant, ce sont des gens qui annoncent cette doctrine, ce n'était pas son principal élément dans ses prédications, je le reconnais. Donc, vous aurez le lien hein, pour vérifier. Et maintenant, plus intéressant encore, la conclusion de sa vie. Et là, ça mérite de réfléchir. Je pense qu'il a eu quelques déceptions, cet homme. Heureux sont ceux qui croient. alors qu'il n'y a aucun signe de réponse aux prières, qui font confiance alors qu'il semble ne plus y avoir d'espoir et que tout a échoué. Voilà, un peu de réalisme en fin de vie, ça fait du bien. Le seul problème, c'est qu'on passe une vie, des fois, à annoncer des choses qui ne tiennent pas la route, n'est-ce pas ? C'est dommage. Le point le plus important de l'évangile de la prospérité, bien évidemment, c'est la richesse. Quelques petites citations. La richesse est une bénédiction. La pauvreté est un démon. La prospérité financière récompense la fidélité. Si vous n'êtes pas riche, comprenez que vous êtes tout simplement infidèle. D'accord ? Donc, la richesse. Avec la même assurance, il proclame. La richesse est acquise aux chrétiens avec le salut. Elle est l'une des composantes de la bénédiction d'Abraham accordée aux païens par l'œuvre de Christ. Et je vous ai déjà dit que cette bénédiction, c'est la justification par la foi. Eux, ils en font la richesse. D'accord ? Dieu veut que ses enfants prospèrent matériellement, qu'ils connaissent la réussite, y compris financière. Cette bénédiction est cependant conditionnelle. Elle s'inscrit dans le cadre d'une loi divine et spirituelle de compensation selon laquelle celui qui donne reçoit. Alors, on va regarder un tout petit peu ce que veut dire la loi de la compensation. Mais ils vont donner déjà le conseil. Dès aujourd'hui, plantez si vous voulez moissonner. On va voir comment on plante. Alors, la loi de compensation, eh bien, on trouve un verset qui va bien, hein, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Jésus répondant dit, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou sœur pour l'amour de moi et de l'évangile, qui n'en reçoive maintenant ce temps-ci 100 fois autant, etc., avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Ça, c'est la loi de la compensation. Le problème, c'est que si vous faites des recherches, vous allez voir que cette loi de compensation, elle est utilisée dans l'occultisme, elle est utilisée dans l'hindouisme, elle est utilisée partout. Et il est dit ceci, la loi de compensation est la cinquième loi universelle qui régit notre existence. Cela comprend le principe de donner et de recevoir. Donc vous voyez que ça existe aussi à côté. Et cette loi générale n'est pas fausse. Si je donne à quelqu'un, je l'invite à ma table, il y a quand même bien des chances qu'un jour ou l'autre, si je passe dans la ville, ils vont m'inviter. Donc ce n'est pas faux, hein, on est d'accord. Mais ce sont quand même des manipulations, surtout que, on va voir l'application. Or l'application, toute simple, et je n'invente pas, hein, ce sont des citations. Donnez 10 dollars et vous en recevrez 1000. Donnez 1000 dollars et vous en recevrez 100 000. Donnez un avion et vous recevrez l'équivalent de 100 fois la valeur de cet avion. Et alors, j'aime beaucoup la conclusion, elle est sublime. En résumé, Marc 10-30, une très bonne affaire. Ah oui, sans aucun doute, une bonne affaire financière. Maintenant, ce qu'on ne remarque pas quand même, c'est l'interprétation de ce verset. Si je lis bien, il est dit qu'il n'y a personne qui abandonne les maisons. Mais le problème, c'est qu'ils n'abandonnent pas les belles maisons comme ça, c'est qu'ils les achètent. Alors, il faut traduire ainsi, il n'y a personne qui a acheté une belle maison ou quelques champs pour l'amour de l'argent, pas du Seigneur, qui n'en reçoivent maintenant, ce temps-ci, 100 fois autant, maisons et champs, sans aucune persécution. C'est la version édulcorée du verset dans l'évangile de la prospérité. Vous comprenez ? Mais on est quand même en droit de se poser la question, bien que ce soit des chrétiens extrêmement nombreux, extrêmement puissants à travers le monde, quel évangile ils prêchent. Donc la prospérité financière, on peut dire, oui, ils réussissent. On voit toujours les leaders qui ont des superbes maisons et des avions personnels, et les autres qui sont plumés, ils sont où ceux-là ? Alors voilà quelqu'un qui écrit, Osborne, « Je dédie ce livre à ceux qui cherchent les secrets d'une abondance financière. Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans un jardin d'abondance. Il voulait pour eux une abondance de tout. Cela, Dieu le veut aussi pour vous aujourd'hui. » C'est un raccourci, puisque Dieu le voulait pour Adam et Ève, il le veut aussi pour nous. Je crois qu'entre-temps, il y a quelque chose qu'on appelle la chute, mais je crois qu'on a fait l'impasse dessus. Et voilà, ce Kenneth Hagin, le premier exemple que je vous montrais dans la vidéo, comment on a l'argent. Je veux réunir ces 80 000 francs ce soir. C'est une autre époque, hein, mais enfin. Je veux vous mettre au défi. Donnez, l'on vous donnera. Il ne s'agit pas de donner ce que vous pouvez donner, pensez donc. Donnez ce que vous ne pouvez pas. L'Évangile nous dit, ou l'Épître aux Corinthiens, que le don est agréable selon ce que l'on a et pas selon ce que l'on n'a pas, ça ne fait rien. Si vous pensez que vous pouvez donner 500 francs, mais pas 1000, donnez-en 1000. C'est là que se trouve la bénédiction, et cela est vrai. Ah ouais. Le problème, c'est que ça, c'est un livre chrétien, La technique pour l'abondance financière. Et ça, c'est un livre non chrétien, L'abondance créatrice, les clés de l'abondance spirituelle et matérielle. Et ça, c'est de l'occultisme et tout. Donc, les mêmes livres, vous choisissez ce que vous voulez. Comment ? On a vu qu'il fallait planter quelque chose. Alors, comment ça marche ? Ça marche avec des dons semences. Les dons semences sont des dépôts auprès de Dieu, semés des graines de foi. On a bien compris, si vous prenez des graines, si vous les mettez dans la terre, vous aurez normalement un résultat. Et c'est assez logique, on dit, mais si vous ne plantez pas, vous n'aurez rien. Mais là, il s'agit des semences de foi. Alors, exemple, vous apprenez à planter l'argent dans le service de Dieu et il vous rend une moisson abondante d'argent. On dit, ah, mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé. Alors, le prédicateur est là, et dit, mais comment on fait pour mettre dans l'œuvre de Dieu ? Il dit, ben, vous avez une caisse là, hein, pas de problème, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la sienne, hein, mais enfin, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, dépouillez-vous, l'œuvre de Dieu, et après, supposons que vous vous spétiez. Il dit, moi j'ai tout donné, tout, ça fait 3 mois, et j'ai rien reçu. Réponse lapidaire, vous avez un problème. Vous devez manquer de foi. Parce que pour moi, ça marche. Ben, c'est sûr, lui, il a gagné tout le truc. Vous comprenez ? C'est grossier, c'est pourtant, je vous certifie, l'exacte vérité. Copeland, qui a les avions, va voir son beau sourire un peu plus loin. Quand un homme fait des dépôts auprès de Dieu, il a le droit de réclamer ses dépôts et de faire des retraits. Seigneur, s'il te plaît, 2 millions. C'est à moi, hein. Je ne touche pas à ton argent, c'est à moi. J'ai fait un dépôt. Bien sûr, moi, je n'ai donné que le centième, mais avec la bénédiction que tu as promise, la multiplication que tu as promise, ça fait ça, s'il te plaît. Ouais. Alors, ils sont directs. Envoyez votre offrande, la plus forte possible, comme semence de foi. Nous attendons votre lettre réponse avec impatience, car nous avons des besoins. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Ici en Suisse, le gars était foutu dehors, sa lettre lui a rapporté quand même 8,5 millions de francs suisses. D'accord, sa lettre. Donc ça marche, hein, ne faut pas croire que ça ne marche pas. Mais on se demande si c'est un rapport avec le christianisme, c'est ça. Comment peut-on pratiquer la prospérité ? Avec 2 éléments fondamentaux. Le premier, peut-être certains parmi vous vont réagir, mais nous pourrons en parler après, c'est fait pour ça, avec la dîme obligatoire. Il est dit... La dîme est un principe qui traverse l'Écriture, Dieu a voulu 1/10. Si on n'est pas fidèle dans nos dîmes, on est en train de déshonorer Dieu, etc. Et à la mesure où vous allez donner, vous allez recevoir. Très bien, je regrette, mais moi je dis que c'est un mensonge. C'est une manipulation malhonnête. Non, le principe de la dîme ne traverse pas toutes les Écritures, c'est un mensonge. Vous prenez votre téléphone, vous cherchez dîme dans toute la Bible. Après, on en reparle si ça ne vous gêne pas. Vous trouvez quelques passages de la dîme quand le Seigneur dit « Vous payez la dîme du cumène et de la nette » et vous avez laissé de côté les choses les plus importantes. Donc, aucune prescription, même dans l'Évangile. On retrouve 4 fois le terme dîme dans l'Épître aux Hébreux en relation avec l'Ancien Testament. Et dans toutes les épîtres qui fixent la doctrine chrétienne, vous avez 0 fois. Alors, dire que ça traverse l'Écriture, c'est faux. Mais on va s'appuyer sur Malachie, apportez vos dîmes au temple et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous bénisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Tout le monde connaît les versets et tout le monde peut manipuler les versets à son propre intérêt. Mais je ne le fais pas. Le second élément, ce sont les fameuses offrandes. Je suis donc allé écouter, parmi d'autres, mais le plus grand évangéliste mondial, soi-disant, le fameux Bénin. Alors, pendant 20 minutes, vous aurez mon témoignage, parce que j'ai fait un article pour un journal, donc j'ai fait le résumé de ce qui s'est passé. Pendant 20 minutes, vous entendez bien, il a prêché l'argent pour les collectes. 20 minutes. 3 minutes, c'est déjà insupportable, mais 20 minutes, je vous certifie. Il a réussi. Il dit, regardez un logiciel qui vous permet, c'est comme si vous entriez au ciel. Vous allez, alors chaque fois traduction en anglais puis en français, vous allez vous promener dans les rues de Jérusalem, comme si vous étiez. Un logiciel unique qui existe, je n'en ai que 300. Et pour une somme, j'ose à peine le dire, dérisoire, 50 euros le logiciel. Ceux qui sont intéressés s'approchent de l'estrade. Et il y a, mettons, on va faire 300 personnes qui arrivent, qui tendent leurs mains avec leurs billets de l'autre côté. Quand les gens ont tout pris, ils leur glissent quand même que le logiciel était en anglais. On était à Marseille. Ça fait rien. Ils ont donné le billet. Ça suffit. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Pendant 20 minutes, on insiste. Et maintenant, on distribuait des petits papiers comme ça que j'ai gardés. Voilà, Bénin, ministrice, impeccable, votre nom, votre adresse, votre ceci et cela, ce que vous voulez donner. Et il le disait, vous avez pas de monnaie, vous n'avez pas de billet plutôt, mettez un chèque. Vous avez oublié votre chèque, vous avez de quoi marquer le numéro de votre carte bancaire, ici, hein, n'est-ce pas? Vous faites le total, vous pouvez donner pour ça, et même en gros pour soutenir l'œuvre. Et là, dans une seule soirée, il récolte des millions. Vous avez fait le calcul, 300, rien que les CD, 300 à 50 euros. Ça fait quoi, ça? Ça fait 15 000 euros. Vous savez, j'ai vendu des CD toute ma vie, mais j'ai rarement fait 15 000 euros en 5 minutes. Lui, le fait. Sont forts, hein? Sont forts. Et pour vendre un logiciel qu'ils ne pourront pas écouter, parce qu'un c'était pour Mac ou l'autre pour PC, ils arrivent à la maison, ils sont marrons, mais en tout cas, les 50 euros sont gardés. Je vais vous montrer maintenant quelques dérives alarmantes. Vous serez comme Dieu, avait dit Satan à Ève. Vous savez ce qu'ils disent? Voilà l'enseignement. Alors, pas tous. La difficulté, c'est que c'est une nébuleuse, ce truc-là. On va vous dire, mais ça, lui, il n'a jamais dit. Ah, bien sûr. Et l'autre, il n'a jamais dit ça. C'est sûr que je vous ai fait une synthèse un peu artificielle de tout ce qu'on trouve dans cette mouvance. D'accord? On est bien d'accord. Hein? Donc, je le dis. Voilà ce qu'ils disent. Il y a de quoi réfléchir. Vous êtes des créatures divines. Vous êtes des dieux. À l'origine, vous aviez étaient désignés pour être des dieux pour ce monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont concertés et se sont dit « Faisons de l'homme une exacte copie de nous-mêmes. » Quand Dieu regarde dans un miroir, eh bien, il me voit. Quand je regarde dans un miroir, moi, je vois Dieu. Puisque je suis une exacte copie de Dieu, j'agirai comme Dieu. La Bible nous dit à propos de Jésus-Christ, et j'aime bien cette traduction en français courant, il est le resplendissement ou il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'image exacte ou la représentation exacte de ce que Dieu est. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Ça oui, l'homme ne croit pas. Et d'affirmer, je suis un homme Dieu, sur le modèle de Jésus, je suis un surhomme. Je suis un petit messie marchant sur la terre. Et cet homme fait répéter à la foule de milliers de personnes, répétez après moi, je suis un homme Dieu. Et tout le monde dit, je suis un homme Dieu. Je suis un homme Dieu, je suis un homme Dieu pendant 10 minutes. D'accord? Mais quand l'homme prend la place de Dieu, bien sûr, Dieu perd son trône. Ainsi, le Fils de Dieu ne sera plus qu'un pécheur mortel qui doit naître de nouveau. Voilà des déclarations blasphématoires. Jésus est allé en enfer pour libérer l'humanité du forfait d'Adam. Le sang qui a été répandu des veines de Jésus, ne nous a pas rachetés. Non. Jésus a passé trois horribles jours et trois horribles nuits dans les entrailles de la terre pour nous y arracher nos droits divins. Ah ouais, nos droits divins étaient là. Vous devez réaliser que Jésus est mort. Vous devez réaliser qu'il est descendu dans les entrailles de l'enfer comme un pécheur mortel, ni plus ni moins. À la croix, Jésus a pris sur lui la nature de Satan. Et finalement, il est né de nouveau en enfer. Je vous laisse apprécier. La Bible nous dit, quant au sang précieux de Jésus-Christ, vous avez été rachetés justement de votre vaine conduite, qui vous avez été enseignés par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Et au début de l'Apocalypse, on trouve cette doxologie à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. À vous de savoir qui vous voulez croire. Vous avez vu dans la première vidéo ce rire frénétique des gens. On peut se traîner par terre pendant des heures, des journées, si bien qu'à Toronto, on avait mis les taximen se faisaient une queue pour ramener les gens chez eux qui étaient incapables de conduire, etc. Bon. À l'époque, je faisais déjà partie d'une association qui s'appelle Vigisect, et nous avons dénoncé cela, on s'est fait taper dessus comme d'habitude. Mais 20 ans après, un des leaders de ce mouvement a reconnu, s'est repenti, qu'ils avaient été guidés par les démons. Bon, d'accord, nous on l'a vu au premier coup d'œil, et eux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils n'y voient rien. D'accord. Donc, voilà ce qu'ils peuvent dire. Et ce cantique, bon, là c'est en français, a été révélé, soi-disant, donc à une certaine Catherine Rice. Si tu es trop sérieux, si tu as le cafard, moi je te propose vraiment ce qu'il te faut. Ce n'est pas conventionnel, mais c'est vraiment rigolo. Viens donc à la fête que Dieu donne aujourd'hui. Il va prendre du bon temps et montrer aux païens que les chrétiens rigolent et déboussolent tout le monde quand l'Esprit Saint répand la bénédiction de Toronto. L'Esprit de Dieu a mis en moi le rire. Le Saint-Esprit me possède et j'échappe à tout contrôle. Fêtard qui s'abreuve à l'orge de Dieu et drogué de Jésus, je suis insatiable. Je suis un alcoolique de ce grand vin nouveau que déverse le Saint-Esprit et je bois sans arrêt, je rigole comme un fou, j'aboie comme un chien. Si rien ne me dégrise, je sauterai comme une grenouille. Je vais faire cocorico comme le coq au point du jour. Le Saint-Esprit agit, je vais être dans le coup. Je vais rugir comme une lionne en train de rôder, rire et trembler, peut-être même ululer. Le fleuve saint de Dieu s'est mis à bouillonner en moi, il se déverse dehors et à présent me libère, je vais m'effondrer. Un banc d'église, c'est pas mal, mais par terre, c'est plus marrant, je vais danser le pogo, puis m'écrouler sur le sol, car le Saint-Esprit agit en moi et j'en veux plus. Voilà, à vous d'apprécier, ce sont des citations. Vous avez les références en bas. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois de Bénin, mais je voulais souligner rapidement, quelque chose. Ici, c'est une campagne en Afrique. Voilà, c'est votre jour de miracle avec l'évangéliste Bénin. Et ça marche très bien en Afrique, ça marche très bien en France. Quand nous étions réunis à Marseille, il y avait quand même 8000 personnes. Hein, et des fois, il y en a plus que ça. Il leur a fait quand même une petite blague. Alors, j'ai dit, est-ce que c'est un escroc ? Je le pense. C'est que quand tout le monde était réuni et qu'on attendait la vedette, ben il n'est pas venu. Il avait un repas d'affaires. On peut comprendre, quand on a autant de millions à gérer, ça devient difficile. Vous voyez ? On ne recule pas à se moquer du peuple. Hein ? On ne recule pas. Donc voilà le même, Bénin. La Bible nous dit « Bénissez, ne maudissez pas ». Donc on est quand même surpris que cet homme dise « Je m'appelle Béni Jéhovah. Il y a en moi un homme Dieu. C'est celui qui fait tomber les gens, d'accord ? J'envoie une malédiction à tout homme, à toute femme qui critique et s'oppose à cette onction. Je maudis tous ceux qui osent prononcer la moindre parole contre mon ministère. » Donc, moi, j'ai droit à la malédiction qui est sans effet, nous dit la parole, quand elle n'a aucun fondement. Quand je suis sous cette onction, les paroles que je prononce ne tombent pas à terre, tout ce que je dis s'accomplit. Vous pouvez étudier, lui comme d'autres sont des faux prophètes. Ils ont annoncé des choses qui ne se sont jamais réalisées. Je ne peux pas trop m'étendre. Mais la Bible nous dit, et c'est le Seigneur lui-même, bénissez ceux qui vous maudissent, que Dieu le bénisse. Mais je crois que la bénédiction passera par un brisement important. Ils ont des visions de mensonges. Je vis Jésus, dit Osborne, cette nuit-là dans une forme humaine appelée William Branham. Vous ne le connaissez probablement pas. William Branham a annoncé beaucoup de choses, mais c'est une sorte de spirit qui guérissait avec un ange noir comme ça à côté de lui, etc. Il a eu des visions dès l'âge de, je ne sais pas, 11 ans, je crois. Et le FBI a pris une photo avec une auréole de gloire sur sa tête quand il prêchait. On est dans l'occultisme. Et donc, il a prédit, entre autres, que l'âge de l'Odyssée, dont il était l'ange, hein, le septième ange d'Apocalypse pour l'église de l'Odyssée, que le monde se terminerait, le Seigneur reviendra en 1977. On attend encore. Et il a dit, cette parole téméraire, « Si une personne seulement dans le monde entier peut prouver qu'une révélation ne soit pas juste, même partiellement, je suis d'accord pour qu'on me prenne pour toujours comme un faux prophète. » Alors bien sûr, je n'en ai pas trouvé une, j'en ai trouvé 10, c'est ça le problème. Mais enfin, à part ça, on peut dire que c'est un faux prophète. Pour vous dire l'esprit qui les anime, « Les vautours et les renards dévoreront tous ceux qui cette année ne marcheront pas avec le Saint-Esprit. » Pas mal quand même, hein. Alors ça, ce sont les leaders hein, du monde évangélique. On a vu qu'il fallait de la puissance pour cet évangile. Alors vous savez comment on la récupère? Alors je vous ai dit, un par le parler en langue, mais c'est un autre thème. Mais voilà, ici vous avez une citation de Bill Johnson, de Bethel, la dernière réformation, un homme très très connu au niveau mondial. Ce que je crois, je l'attends. C'est une génération qui va se lever avec une foi corporative, une onction de puissance corporative pour forcer les royaumes, sphères d'autorité, parce que c'est là ma conviction. De la même manière que Dieu a mis cette puissance sur un William Branham, une Catherine Kuhlman, peut-être pour vous ça ne vous dit rien, mais moi ça dit beaucoup, puisque je connais leur vie et tout. Alors vous savez ce qu'on fait? L'onction qu'ils avaient, on va la récupérer. Où? Là où ils sont? 6 pieds sous terre, oui. On reste à la surface et on s'allonge sur les tombes, on se met derrière ici, et on va récupérer l'onction des morts pour faire les miracles de puissance qu'on a vus. Donc il y a de quoi un peu réfléchir, n'est-ce pas hein? Voilà. Les dérives financières, eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion à Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde, en Corée du Sud, 700 000 fidèles, quand même, ça fait déjà pas mal, n'est-ce pas? Il a détourné finalement 12 millions de dollars, il vient de se faire attraper, il vient de décoper 3 ans de prison et 4,6 millions d'amendes et en remboursant le reste. Voilà, ce sont les grands leaders, hein, les grands leaders au niveau mondial. Et si bien que match titré, ils ont cassé la tirelire du bon Dieu. La Bible nous dit que ce sont des hommes corrompus qui estiment que la piété ou la religion est une source de gain. J'ai gardé presque le mieux pour la fin, avant de faire une évaluation. Voilà actuellement un des plus grands été l'évangéliste américain et son ami. Vous apprécierez, si vous le voyez bien, ce visage souriant. Je ne sais pas si on s'imagine tellement le Seigneur comme ça, mais ça ne fait rien. Voilà, une journaliste vient l'interviewer, ça l'a vexé. Combien avez-vous payé votre jet, le dernier là? Je ne vous le dirai pas. Il a aussi un disciple qui est encore plus fort que lui, semble-t-il. Parce que pour financer l'achat d'un avion, estimé à 54 millions de dollars, il a fait un appel dans une vidéo diffusée le 21 mai 2018 sur son site internet. « Nous croyons en Dieu pour un Falcon 7X tout neuf pour aller partout dans le monde sans escale », ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ça c'est un article de journal, affirme le télévangéliste qui se tient devant des photos de ses 3 avions qu'il possède déjà. Voilà, bon. Si vous voulez envoyer votre dîme ou votre bol, hein, ne vous retenez pas. Évaluation et danger, quatrième point. Je ne peux pas m'étendre sur ce point qui est pourtant très intéressant. Je vous ai parlé de la clé, de la porte d'entrée dans tout ça. C'est quand même le fameux parler en langue. Donc, à l'époque, les chrétiens d'Allemagne, tous les chrétiens évangéliques se sont réunis pour examiner l'arrivée du mouvement de Pentecôte qui arrivait de Norvège après être parti de Los Angeles en Californie. Et leur conclusion écrite, qui a été une base pour 100 ans, c'est « Le mouvement dit de Pentecôte n'est pas d'en haut, mais d'en bas. Il y a beaucoup d'apparences communes avec le spiritisme. En lui agissent des démons qui, guidés avec ruse par Satan, mélangent le mensonge et la vérité pour séduire les enfants de Dieu. Dans beaucoup de cas, ce qu'on appelait inspiré se sont révélés par la suite d'être possédés. Ils invitent à se retirer de ce milieu. » Je dois souligner qu'actuellement, avec l'évolution des choses, 100 ans ont passé, les Assemblées de Dieu, qui est le mouvement le plus convenable, si vous voulez, dans ce milieu-là, a fait beaucoup de progrès. Si bien que, sur la base d'une charte qu'ils ont pu signer, ils font partie actuellement du CNEF, c'est-à-dire Comité National des Évangéliques de France. C'est très intéressant parce qu'il y a eu une avancée significative, et il est vrai que nous trouvons de très chers enfants de Dieu dans ce milieu. Néanmoins, chaque fois que je gratouille, on arrive aux mêmes choses, je peux vous le dire. Donc, au cœur des sectes, trois choses. Les dérives autoritaires, les dérives morales, et au centre, l'argent. L'argent, c'est tout, on a tout avec ça. Hein ? Eh bien, la Bible nous dit, or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, maniant, renié la puissance. Alors, ils ont de la puissance, mais je ne suis pas du tout sûr que c'est celle de Dieu. Faisons une synthèse. L'évangile de la prospérité est une exploitation des pauvres. Les pauvres, ils restent au tapis dans tout ça. Il est opposé au message général de la Bible, à l'exemple et à l'enseignement du Seigneur et des apôtres. Alors, dans cet entretien, si vous demandez des versets, je les ai enlevés parce que c'était trop long. Il est une manipulation éhontée de quelques versets de la Bible sortis de leur contexte. Troisièmement, les méthodes pour avoir de l'argent sont des manipulations malhonnêtes en vue de l'enrichissement personnel. Quatrièmement, ce mouvement est accompagné de déclarations opposées à l'Écriture, de fausses prophéties et de faux miracles. L'évangile de la prospérité entraîne aussi une culpabilisation destructrice pour les croyants. Il faut le savoir. Hein ? Vous trouvez des gens qui sont en état de décomposition avancée suite à cela, parce qu'ils ont tout donné. Ils écrivent, comme je vous disais tout à l'heure, ils disent « Mais est-ce que tu n'as pas gardé un petit truc ?» Et l'autre avait gardé dans un livre deux billets de 50 euros en cas s'il avait un pépin. Et il se sent repris dans sa conscience. Il dit, si on ne marche pas, est-ce que vous n'avez pas un interdit ? Est-ce que vous avez réellement tout donné à Dieu ? Il va avoir ses deux billets comme la veuve pauvre qui a mis ses deux dernières pites. Elle dit, allez, je les envoie à l'évangile de la prospérité. Eux ont gagné 100 euros, elle a tout perdu, et après, elle va au secours populaire. Donc, le succès est disponible ici et maintenant. Il dépend de vous de venir et de le recevoir. Ça, c'est ceux qui disent. Si vous n'avez pas de succès, c'est votre faute, non pas celle de Dieu. C'est vous qui déterminez votre niveau de succès. Vous faites le choix. Dieu a placé la balle dans votre camp. C'est vous qui donnez le mouvement. Et si vous n'avez pas de résultat, c'est que vous n'avez pas de foi. Allez, débarrassez maintenant. L'évangile de la prospérité est un contre-témoignage puissant à l'évangile. Les gens qui sont pris là-dedans, ils ne s'en sortent pas, en gros, hein. Il est très facile de nos jours de trouver sur Internet les traces des innombrables scandales sexuels, fausses prophéties, détournements d'argent des télévangélistes qui entraînent la risée, le mépris des gens et les détournent définitivement de l'évangile et du salut en Jésus-Christ. Je peux vous dire que notre gendre a des parents qui sont incrédules et se consentant, il les a de sa part. Parce que nous sommes pareils que les télévangélistes. Amérique. On a beau dire tout ce que vous voulez, ça n'y change rien. Ils n'ont d'image de l'évangile que les télévangélistes américains qui couvrent toutes les chaînes de télévision. Alors, on s'est posé la question, est-ce que ce mouvement a un rôle à jouer dans l'Église apostate du temps de la fin? Alors, Kenneth Copeland, qui est... Ah, vous avez la référence. Dans une vidéo à vous laisser par terre, je crois, demain, j'ai peur de me tromper, mais 2500 pasteurs, il aura expliqué justement toutes les grandeurs du catholicisme, la véritable Église. Et le Seigneur n'a-t-il pas dit, il faut que vous soyez un, comme nous, nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, il disait à son père. Donc il faut être un, autrement dit, retour dans l'Église de Rome, et apparaît à ce moment-là, il faut quand même avoir quelques relations, en écran et en direct, le pape François. Ah, une réunion d'évangéliques en Amérique, en direct, le pape François. Il faut quand même le faire, hein, avec un décalage horaire et tout. Et d'un ton doucereux, il parle, et ce Kenneth Copeland termine en disant, « Nous vous bénissons !» Nous recevons vos bénédictions, nous vous bénissons de tout notre cœur, nous vous bénissons de toute notre âme, nous vous bénissons de tout notre esprit, nous remercions Dieu pour vous, soyez bénis. Amen. Le ciel est très heureux à ce sujet. Alors nous avons en France un historien des religions qu'on peut rencontrer, que je connais, qui s'appelle Sébastien Fatt, et je vous recommande ses vidéos critiques, mais... avec, comment dirais-je, la classe d'un universitaire qualifié. Et en parlant de cette vidéo, il dit « Il est parfois des rencontres tellement surprenantes qu'en tant que chercheur, on doit se frotter les yeux trois fois pour y croire. » Si on en est là, en est où ? Conclusion. L'évangile de la prospérité est une déviation affligeante du christianisme biblique, un faux évangile. Sa théologie n'est pas biblique. Il est une exploitation savante de l'ineffable crédulité humaine à des fins mercantiles. Il est cupide et culpabilise honteusement ses victimes au profit d'un enrichissement personnel. Il est une injure à l'ensemble de l'Église persécutée, pauvre et malade, qui est dans le monde entier de nos jours. Allez leur raconter ça. Hein ? On va voir si ça passe. Il est une séduction du temps de la fin. Or, nous dit la Bible, soyons garde contre les faux prophètes qui viennent à vous un habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Et le Seigneur a le mot de la fin. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fait une heure... exactement sans faire trop exprès, mais en me